La Voix Nue. Cette semaine, Maïlys Bessery rencontre Catherine Clément. Ce soir, l'athée spécialiste des religions.
Catherine Clément, bonsoir.
Bonsoir.
Alors hier, nous sommes revenus sur l'année 1981, année bien sûr de l'élection de François Mitterrand. Et à cette période, vous êtes encore journaliste au Matin de Paris. Et pendant la campagne, vous avez fait sa connaissance et vous avez aussi fait la connaissance de Jacques Chirac.
Parallèlement.
Alors, qui était maire de Paris et avec lequel vous allez entretenir aussi une forme d'amitié. On va parler peut-être de cette rencontre qui intervient la veille du second tour de l'élection présidentielle.
Alors, la rencontre, non. La campagne présidentielle, ça dure quoi? 2 mois à peu près. Hein. La première fois où il m'a vu et où on s'est connu, c'est à une conférence de presse. J'avais inventé quelque chose qui n'existe plus malheureusement et qui était de forcer tous les candidats à définir une politique culturelle précise. Précise, ça voulait dire pas plus d'argent pour le livre, pas... Bon. C'est comme ça que Mitterrand avait développé le prix du livre unique. Enfin, toutes sortes de mesures qui ont été révolutionnaires pour la culture. Donc, tout le monde l'a fait autant. Donc, Chirac, candidat, l'a fait autant. Et Marc Perret. Vous dire que j'avais un gigantesque chapeau violet et que ça se voyait. Et à ma surprise totale, quand Mitterrand m'appelait, 1 minute après, il y avait Chirac. Donc, il y avait des écoutes partout. Mais ça, les écoutes, on en parlera plus tard si vous voulez. Ça m'a toujours fait rigoler, ça, les écoutes. Et donc, Chirac, que je connaissais très peu, me convie le 9 mai 1981, la veille de l'élection, je ne sais pas pourquoi, à 19h, dans son bureau de l'hôtel de ville. J'ai demandé à Perdriel ce qu'il fallait que je fasse. Il m'a dit, vous y allez avec tout ce qu'il faut pour l'interviewer, et puis on verra bien. Donc j'arrive, magnétophone, carnet, etc.
Alors Claude Perdriel du Matin de Paris.
Oui, propriétaire et directeur du Matin de Paris. Et il me dit, non, laissez ça, c'est pas, je ne veux pas d'entretien. Je ne veux pas vous raconter la totalité de l'entretien qui a été loufoque, notamment le passage sur « Ma voyante m'a dit que Mitterrand serait élu, mais qu'il ne serait pas président », et j'ai mis des années à comprendre que ça voulait dire que Chirac connaissait le cancer de Mitterrand, rétrospectivement, et oui, même quand j'ai écrit mes mémoires, je n'avais pas compris encore. Et au terme de développement très, très amicaux, très, très sympathique, il me dit « Je vais vous dire pourquoi vous êtes là. Ah, quand même. Vous connaissez bien Mitterrand ?» Et oui. Est-ce que vous voulez bien aller lui dire que dans 5 ans, quand il aura perdu les législatives, j'aimerais bien être son Premier ministre? Ce qui est quand même un message ahurissant.
Prophétique un peu.
Mais pas prophétique, c'était... Enfin, prophétique, c'est de l'autoprophétie réalisée, ce truc-là.
Absolument.
Voilà, alors j'ai pas été la seule à qui le message a été transmis. Je pense qu'on a été de nombreux messagers, mais j'ai été une des messagères pour transmettre ce message politique si particulier.
À Mitterrand, et vous l'avez fait?
Ben oui, bien sûr, je l'ai fait. Quelle idée! Bien entendu. Et la seule chose, je me souviens de Mitterrand, quand je lui ai raconté ça, il m'a dit « Oh, il a une voyante !» Et ils avaient la même, en réalité.
Comment vous le saviez, Catherine Clément?
Que
qu'ils avaient la même voyante?
Alors, c'était des rumeurs journalistiques, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais tout le monde disait qu'ils avaient la même voyante.
Et qu'ils lui portaient le même crédit.
Ça, les histoires de voyante, je vous ai dit pourquoi je ne voulais pas en parler.
Oui, mais eux lui portaient le même crédit, visiblement.
À l'époque, ça marchait. Je me souviens de Lang, Jacques Lang, le jour du Panthéon, le jour où Mitterrand est remonté au Panthéon, qui me disait, tu sais, la voyante l'avait dit. Et je l'ai regardé avec des yeux ronds. Hein. Mais donc, il y a des gens qui y croyaient vraiment et qui y croient certainement encore. Ça, c'est le monde politique, à mon avis, est très imbibé de croyances magiques. Très. Il y a bien quand même un marabout sénégalais qui a demandé à Pierre Mauroy de venir enterrer 2 œufs sous un arbre dans les jardins de Matignon, le jour où il a pris la possession de Matignon. Eh bien, Pierre l'a laissé faire. Par exemple. Hein.
Mais vous qui êtes très intéressée par les rites, Catherine Clément, vous n'aimez pas cette magie-là?
Je m'en méfie. Je m'en méfie comme de la peste. Comme de la peste. Je pense que les mots peuvent tuer, les gestes peuvent tuer. Les rituels, si on ne fait pas gaffe, ça peut envahir. Alors, pas Pierre Mauroy. Hein. Il y a 2 œufs qui se baladent quelque part sous un arbre dans les jardins de Matignon. C'est pas grave, ça.
En 81, à la fin de l'année 1981, vous allez rencontrer Jacques Thibault. Et vous allez être candidate à la sous-direction des échanges artistiques du Quai d'Orsay. Alors, encore un changement de carrière. Vous êtes journaliste depuis 7 ans.
Et j'en ai vraiment marre. Et j'en ai vraiment marre parce que travailler dans un quotidien, c'est épuisant. C'est fascinant. C'est magnifique, c'est exaltant, c'est formidable, mais c'est épuisant. Conférence de presse le matin, assise, pas debout comme au Monde, heureusement, à 9h30, et après c'est non-stop, non-stop. Il fallait que j'ai rendu ma copie, moi, toute ma copie, et j'avais quand même 4 pages à éditer à 13h, tous les articles partaient au secrétariat de rédaction à 13h, c'était une vie épuisante, et j'en avais assez, vraiment, j'étais crevée. Oui, vraiment.
Alors, cette nouvelle ville du Quai d'Orsay, cet ami vous propose d'être candidate, et puis ça va se faire.
Oui,
sauf qu'il va y avoir un recours contre vous.
Parce que c'est un poste qui n'avait jamais été occupé par une femme, d'une part, et qui avait toujours été occupé par des vieux diplomates. Généralement, on rencarre, mais pas toujours. Il y a eu des très bons diplomates qui avaient pris cette fonction-là. Ils étaient diplomates et ils étaient issus de l'ENA. Alors, il y a deux grandes catégories de diplomates au Quai d'Orsay. Il y a les issus de l'ENA et les orientalistes. Ceux qui ont appris des langues et ceux qui passent par l'ENA.
Et vous n'étiez ni l'un ni l'autre.
Et je n'étais ni l'un ni l'autre, je n'étais que normalienne. Et donc l'association des diplomates issus de l'ENA, association corporatiste qui jouait d'une grande puissance au Quai d'Orsay, a déposé un recours contre ma nomination qui était illégale, disait-il.
Et c'était vrai ?
Sur la forme, c'était vrai. Ça avait été fait sur un bout de papier au lieu de passer par le Premier ministre. Ça, c'est sûr. Sur la forme, c'était formellement inadéquat. Sur le fond, je vous laisse juger. Hein.
Catherine Clément, cette histoire va devenir extrêmement romanesque quand même. Il faut que vous nous racontiez l'issue.
Le type horrible qui m'a fait un recours, l'abominable type qui avait déposé ce recours, que je haïssais, que Mitterrand m'avait mis en garde contre lui, le secrétaire général du Quai d'Orsay m'avait dit à son sujet une phrase que je vous laisse évaluer, méfiez-vous, il est homosexuel parce qu'il a un chien. On m'a dit ça de cet homme avec qui j'allais vivre pendant 30 ans. Voilà.
Alors c'est ça l'histoire.
C'est ça l'histoire.
C'est qu'il va devenir votre supérieur hiérarchique d'abord.
Oui, enfin non, j'avais le budget. Enfin,
vous allez travailler sous sa responsabilité.
J'avais le budget. Oui, mais j'avais le budget. Il ne pouvait rien faire sans mon budget.
Et ça va être votre compagnon.
Voilà. Et on est tombés amoureux l'un de l'autre dès qu'on s'est vus. Mais on ne s'est pas vus pendant presque un an et demi. C'était à distance avec des papiers recommandés. Une de ces batailles administrativo scandaleuses que dans l'administration française... regorge. Le monde administratif adore ce genre de truc. Pas la fin. La fin n'est jamais comme ça. Mais sinon, ils aiment bien s'engueuler.
Dans ce début des années 80, en 1983, vous allez faire votre premier voyage en Inde. Parce que vous allez être secrétaire général de l'année de l'Inde.
Non, sans mal, le voyage en Inde.
Et vous aviez une mauvaise image de l'Inde avant d'y aller, Catherine Clément.
En 83, c'était une peur aveugle, une angoisse. Beaucoup de gens ont une angoisse à l'idée d'aller en Inde. Ça a passé absolument... Comme un souffle, j'ai ouvert les yeux, il y avait des perroquets sur une branche qui était en train de se titiller le bec. Point final, ça a fondu.
À Delhi ?
Oui, à Delhi. Oui, mais Delhi, pas encore polluée. Parce que maintenant, c'est une ville très polluée. Donc, c'était une ville avec un ciel bleu. Ça compte quand même, le ciel bleu.
En 1983, en tant que secrétaire général de l'année de l'Inde, vous devez organiser une sorte de grande rencontre à Paris ?
Ah non, non, non. J'organise toute l'année le spectacle. C'est-à-dire, j'organise des cycles de danse, musique, théâtre. Il y a peu de théâtre indien réel, contemporain en tout cas. Et il y a un grand théâtre indien, mais il est antique, disons. Et tout ça, toute l'année, avec une ouverture avec 700 000 personnes. Il y a eu 700 000 personnes quand même. Et c'était formidable, ça. Mais j'y ai passé un an. J'ai passé un an entier à préparer simplement l'ouverture.
C'est à cette période-là, en tout cas dans l'année qui va suivre, en 84, que vous allez rencontrer, pour une toute autre raison, Indira Gandhi, que vous allez avoir la chance d'interviewer.
Une toute autre raison.
Et en français.
Oui, absolument. C'était pour un documentaire que tournait José Dayan et qui était l'adaptation du Deuxième Sexe. Et ça n'est jamais sorti. Les roches sont sûrement quelque part. Elle a travaillé énormément, et notamment l'interview d'Indira Gandhi, c'est elle qui me filmait. Et il n'y a jamais eu ce documentaire. Ça doit traîner quelque part, on ne sait pas où. Mais en tout cas, à l'époque, on a pris l'avion, on avait un jour, même pas, pour prendre l'avion, débloquer à la douane le matériel audiovisuel, foncer chez le Premier ministre indien, on dit le Premier ministre là-bas, hein, the Prime Minister, et l'interviewer en français.
Quelle connaissance vous avez ?
Attendez, il y avait un sujet quand même. Le sujet avait été défini par Simone de Beauvoir.
Pour la dot.
C'était les morceaux pour la dot. À l'époque, il y avait par année 90 000 jeunes épouses qui brûlaient vives dans les cuisines parce que les belles-mères ou les maris les arrosaient d'essence et mettaient le feu sur des saris délibérément en nylon. Hein, en tout cas, des saris qui brûlent bien. Et parce que un mariage en Inde, c'est un commerce. C'est comme le livre, tiens, c'est un commerce. Donc, on fait d'abord un contrat de mariage. Le père de la fille apporte une dot considérable et la cérémonie elle-même doit être à peu près l'équivalent de un an de son salaire, rien que pour la cérémonie. Je vous laisse à penser le reste des dépenses. Donc le mariage d'une fille ruine une famille entière. Et quand j'étais en Inde, il est arrivé deux ou trois fois que sur des familles de six filles, il y en ait cinq qui se pendent pour que la sixième puisse se marier. C'est à ce point-là. Mais là, c'était plus radical, c'était des crimes. Comme la dot n'était pas rentrée, il y avait eu le scooter, la télé, mais pas le frigo.
Parce que les dots étaient aussi en nature, hein, c'était des objets.
Ils ne sont qu'en nature, puisque c'est interdit par la loi. Ça a été interdit en 1963, la dot. Autant vous dire que ça s'est remplacé par des bijoux, des machins, des voitures, des grands voitures. Ça dépend de la catégorie sociale. Mais pour les catégories les plus pauvres, c'était le vélo, ou le scooter, ou le frigo, ou petit à petit, c'est devenu le réfrigérateur et puis le brumisateur, enfin c'est devenu des choses plus compliquées, ça a maintenant rétrogradé quand même. Il fallait, c'était compliqué. Indira Gandhi voulait un flagrant délit pour pouvoir faire une loi, une jurisprudence.
Sur ces meurtres.
Sur ces meurtres. Or c'était très difficile de pincer le meurtre à flagrant délit. Très difficile, parce que quelqu'un disait, bah oui, elle s'est enflammée toute seule. Elle s'est approchée tout du feu.
Accident domestique.
Accident domestique, exactement. Et le jour où on a pris un homme, un jeune mari en train de brûler sa femme, il y a eu une jurisprudence. Et là, ça a commencé à rétrograder quand même.
Catherine Clément, racontez-nous cette rencontre avec Indira Gandhi qui s'exprimait dans un français parfait, puisqu'elle avait été dans des pensions francophones.
Elle avait passé une grande partie de son adolescence. Je ne sais même pas si elle parlait pas un peu français quand elle avait été à l'école au Bengale, à l'école de Tagore. À mon avis, le français devait faire partie de cette éducation-là. C'est quand même un prix Nobel, Tagore. Mais ensuite, comme sa mère était gravement tuberculeuse, et qu'elle est morte d'ailleurs en Suisse de la tuberculose, Indira Gandhi a passé, je dirais, 5 ou 6 ans dans les établissements suisses. Et elle a parlé français, bien entendu. Elle parlait français avec un français un peu roucoulant, une voix au perché, un ravissant français. Il n'y avait pas une faute. Très jolie. Et c'était très étrange parce qu'elle était toute petite, Indira Gandhi. Je suis sûre que vous l'imaginez grande, parce qu'elle avait une grande tête. Elle avait une tête massive et très haute sur un tout petit corps. Et donc, c'était comme un... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Un peu comme un... Vous savez ce que c'est que le kalao? C'est un oiseau africain, c'est un peu comme un toucan. C'est-à-dire un petit corps, un énorme bec, une toute petite voix.
Et cette rencontre, justement, alors elle a fait l'objet d'une interview, mais ça va aussi progressivement enrichir cette pensée que vous êtes en train de vous forger sur l'Inde et qui va prendre du temps, puisque lorsque vous y arrivez comme ambassadrice, quand votre compagnon est nommé
compagne
ambassadeur,
d'ambassadeur.
Vous dites que vous avez passé les premières années à faire de la sémiologie, à comprendre groupes.
J'ai passé l'année dans les bouquins anglais à travailler sur l'ethnologie, l'ethnographie, la structure, la composition de toute l'Inde. Pas les bouquins français, mais évidemment les bouquins britanniques. Comme ils ont été leurs colonisateurs, ils ont bien été obligés de dépatouiller tout ça. Ils ont d'ailleurs forgé pas mal de castes, les Anglais, qui n'existaient pas avant. Hein, ils en ont fabriqué, il faut le savoir.
Alors, qu'est-ce que vous avez compris de l'Inde ces premières années-là, cette première année-là, Catherine Clément?
Je n'ai rien compris, j'ai commencé par apprendre. Alors, il y a quand même 300 000 lieux, je me suis débrouillé pour en connaître à peu près 50 par cœur, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Il faut aussi savoir reconnaître la caste. C'est difficile, hein, reconnaître la caste, mais ça peut se reconnaître au nom propre. Donc, il faut avoir l'oreille pour ne reconnaître l'allure du nom. C'est pas simple non plus. Mais ça peut. J'ai vu l'équipe Matra, la Gardère Matra Aviation, ou Armement, je ne sais plus ce que c'était, se planter, mais totalement avec des militaires indiens, parce que le matin, quand ils les ont vus en réunion, ils avaient leur képi, leur machin, les trucs, ils étaient en militaire. Mais le soir à la réception, ils étaient indiens. Donc il y en avait un avec un turban sikh, l'autre un turban du Rajasthan, et ils ont tout mélangé. Adieu contrat.
Alors, il y a les groupes, il y a les castes, il y a ceux qui sont hors caste aussi.
Il n'y a pas véritablement de groupe. Il y a les partis politiques qui sont des groupes, mais il y a des castes qui sont abolies, qui ont été abolies dans la Constitution de 1950, et rédigées par un intouchable, qu'on appelle maintenant les Dalits. Mais Dalit est une appellation trompeuse, parce que Dalit permet de mettre les intouchables et les basses castes, les très basses castes. C'est un peu un trucage. Mais le mot Dalit est passé dans l'usage habituel de l'Inde. Et c'est quand même compliqué de reconnaître ça. C'est quand même difficile d'évaluer tout ça.
Qu'est-ce que vous apprenez sur la question des croyances et des religions, qui est au centre quand même aussi...
J'apprends qu'il y a 300 000 lieux. Je vois les gens aller au temple. Nous allons une fois dans un pèlerinage, mais pas deux. Parce que le pèlerinage, c'est pince-fesses pour les femmes. Mais vraiment, alors, hein, pince-fesses et pince-saints. C'est-à-dire, c'est l'endroit où les Indiens, mâles, se défoulent de je sais pas quoi, en tout cas. Toutes les femmes étrangères ont fait l'expérience d'avoir les seins et les fesses pincés dans un pèlerinage. Il faut dire qu'un pèlerinage en Inde, c'est le métro par un jour de grève. Hein, c'est à peu près ça. Et j'en suis sorti absolument contusionné de ce pèlerinage, du premier et unique. Ça a l'air de vous étonner.
Oui, un peu, je ne m'attendais pas à ce récit-là.
Mais écoutez, si, ben, ça donne une idée quand même du refoulement. C'est ce que je veux dire, Kakar, mon ami psychanalyste indien, n'arrête pas de dire que le refoulement sexuel en Inde est monumental. Et c'est une montagne gigantesque. Et là, c'est naturellement, on ne sait pas qui c'est furtif. Hein.
Alors, vous vous intéressez à l'histoire de Gandhi,
celle... Attendez, je m'intéresse à l'histoire à cause du statut politique de l'Inde, puisque le parti du Congrès est à la tête de l'Inde depuis très longtemps. Cela dit, pendant qu'on y était pendant 4 ans et demi, on a quand même vu l'alternance. Les alternances fonctionnaient. Un parti un peu plus à gauche que le parti du Congrès a pris le pouvoir. On a vu aussi un premier ministre qui parlait pas un mot d'anglais. Il n'a pas pu rester. C'est intéressant, ça. Parce que l'anglais est une des langues officielles de l'Inde. Il y a maintenant 24 langues officielles. Le statut des langues officielles s'étend à mesure que la reconnaissance des peuples premiers se fait en Inde. À mesure que ce qu'on appelle c'est pas les Dalits d'ailleurs, c'est les tribals, hein, c'est une appellation anglaise, mais les tribals arrivant, on leur fait un statut, on leur fait un état, leur langue devient officielle. Donc pour l'instant, c'est plus de 20. Mais l'anglais a toujours été une langue officielle, puisque les langues du Sud n'ont rien à voir avec les langues du Nord, et que ces 24 langues officielles, s'il n'y avait pas l'anglais pour les unir, ça serait extrêmement compliqué.
Catherine Clément, au moment où vous arrivez, où vous êtes compagne d'ambassadeur, qu'est-ce que vous découvrez des liens, justement, entre la politique, alors la politique aussi telle que vue par les étrangers, et les liens avec les croyances et les religions sur place?
Je découvre que la date des élections est fixée par les astrologues. Est-ce que ça résume quelque chose à vos yeux? Voilà. Hein, je découvre la place de l'astrologie monumentale en Inde, et ça n'est pas la voyance. Il y a aussi des voyants. J'ai fait beaucoup de mal à un voyant sans le vouloir. Mais ça, c'est une histoire un peu longue que je raconterai peut-être une autre fois. Mais l'astrologie, j'y ai eu droit à Bénarès, malgré mon horreur absolue de la chose. À Bénarès, un de nos amis, grand prêtre du dieu singe, ça fait chic hein, de dire ça, mais enfin c'était un de nos grands amis, nous a dit, bon, je peux pas, en anglais tout ça, hein, je peux pas obliger l'ambassadeur à se soumettre à l'astrologie, mais Catherine, je veux qu'elle y passe. Bon, très bien. Donc, les meilleurs astrologues du monde sont à Bénarès. Donc, c'était le gratin du gratin. Donc, je donne mes coordonnées astrologiques. 15 jours passent, on devait rester 3 semaines à Bénarès, ce qui est un très long temps pour la ville de Bénarès. Et le résultat, c'est le grand prêtre qui me le traduit du metteur en page qui a hérité ça du calculateur. Alors, il y a primo, le calculateur, que je ne verrai pas. Il y a ensuite le metteur en page du petit livret, donc je ne sais pas où je l'ai mis, qui fait 100 pages et qui est dans la barque sur le Gange. En plus, c'était sur le Gange. Oui, c'est incroyable. Hein. Et puis, il y a le grand prêtre qui traduit en anglais. Voilà. Et je retrouve toute l'histoire de mon corps jusqu'à la date où on était. C'est-à-dire, ça commence par vous avez accouché d'un fils en 1961 et 3 semaines plus tard, vous avez eu une péritonite. Et vous avez une grande cicatrice à cet endroit-là. C'était vrai. Je ne vois aucun moyen. Mais aucun, hein. Comment, bon. Et donc, on me raconte toute l'histoire de mon corps. Et moi, j'écoute Baba en me disant, on a quand même dû laisser tomber quelque chose du système ptolémaïque dans ce coup-là. Rien de psychologique, hein. Et puis, on arrive à la date où on est. Et je dis, et le type se tait. Je dis, ben, et l'avenir alors? Et la réponse est stupéfiante. Écoutez, l'avenir, il y a 70% d'erreurs. Jamais on fait ça, nous. Les astrologues de Bénarès, c'est quand même bien. Ils prennent pas de paris sur l'avenir. Jamais. Alors ça, ce sont les voyants qui s'en occupent.
Et en ce qui concerne la politique, Catherine Clément, vous découvrez une vie tout à fait différente. Alors certes, vous étiez allée plusieurs fois en Inde, mais là, vous découvrez ce que c'est que d'être compagne d'ambassadeur, ce que c'est que la politique des ambassades, la diplomatie,
alors,
avec un vrai rôle à assumer.
Alors, la première chose, c'est les réceptions. Il y a quand même, c'est quand même une vie avec 2-3 heures de réception. Réception de réception. Ce qui s'appelle justement les pinces-fesses dans le langage trivial, c'est bien vu. C'est 3 heures par jour, hein. Et j'étais programmée par mon compagnon ambassadeur qui me disait, bon, ce soir, je voudrais que tu me trouves tel renseignement. Donc, j'ai fait l'espionne avec jubilation pendant toutes ces années. Et ça marchait très bien. C'est comme Zitro, n'y voyait pas venir.
Et à cette période-là, vous assumiez ce rôle-là et vous continuiez à écrire?
Je l'assume secrètement. Ben oui, j'écris. Où est le problème? Bien sûr, j'ai le temps. 3 heures par jour, c'est rien. Alors, il y a les rapports avec la communauté française, mais non, ça rentre dans les 3 heures par jour. Et il y a, si, quelque chose qui prend quand même 1 an de préparation, chaque fois, dans tous les postes où j'ai été, c'est le 14 juillet. Ça, il faut 1 an de préparation. Alors, à Delhi, il y avait 7000 personnes. À Vienne, en Autriche, il y avait 2 fois 4000. Et au Sénégal, il y avait 10 000. Bon. Alors, déjà, je vous signale que la chose la plus importante, c'est la bassine d'eau glacée pour mettre la main. Parce que quand vous serrez 7000 mains, vous êtes obligé de vous faire un plancher à un moment donné et de tremper la main dans l'eau froide. J'ai appris ça. Mais j'ai surtout appris comment, 1 an avant, il fallait mettre en place les ambulances, enfin, tout un système, tout un dispositif préventif et tout un dispositif de signalétique. C'était un vrai travail. Heureusement, j'avais fait ça à la Fête de l'Humanité avant. J'avais eu des secteurs de la Fête de l'Humanité à gérer un tout petit peu, hein. Mais quand même suffisamment pour savoir faire une signalétique. Et puis, je m'étais fait un diplôme d'ingénieur conseil dans une année sabbatique que j'avais eue. À la place de faire ma thèse, j'avais acquis un diplôme d'ingénieur conseil en organisation. Donc, je me suis débrouillé très bien avec ces trucs-là. Voilà.
C'était un moment où vous allez finalement expérimenter d'une certaine manière ce que vous aviez pu lire, ce dont vous aviez pu être imprégné de la pensée de Lévi-Strauss, de la pensée structuraliste.
Oui, mais pas Lacan. C'est-à-dire que la méthode structurale ou structuraliste, c'est une méthode qui découvre et qui permet de comprendre. C'est une méthode donc qui cherche. Donc avec la méthode de Lévi-Strauss, ce que j'appelais faire de la sémiotique ou de la sémantique, hein, c'est avec cette méthode-là que j'ai découvert les castes, les machins, les trucs, les dieux, les groupes de dieux, à identifier des catégories qui existent beaucoup et dont je rappelle que certaines ont été fabriquées par les colons anglais. Mais quand même, colons anglais ou pas, c'est comme le thé au lait bouilli 20 minutes avec du sucre, c'est pas les Indiens qui l'ont inventé, c'est les Anglais, et c'est devenu une boisson indienne. Donc les complications anglaises, elles sont toujours là, elles ont été avalées.
Sur cette question-là de la pensée de Lévi-Strauss, comment est-ce qu'elle vous a accompagné en Inde et puis ensuite au Sénégal, puisqu'il va y avoir
Eh bien, pour commencer avec cette histoire de thé, si vous voulez bien. Parce que Lévi-Strauss, je lisais ça encore hier dans un truc inédit qui est paru en septembre 2019 et qui s'appelle l'anthropologie structurale 0, qui sont des inédits préfaçant l'anthropologie structurale 1 et 2. Et là-dedans, il y a un article qui explique très bien que les petites sociétés, qu'on appelait à l'époque les primitifs, et qu'on appelle maintenant les peuples autochtones, c'est l'appellation officielle de l'ONU, qu'on appelle indigenous en anglais et autochtone en français. Ceux-là, quand il y avait un événement massif qui arrivait, comme une petite société américaine du Brésil, d'Amérindiens, où il y a un tournage d'un documentaire. Le tournage d'un documentaire, ça perturbe absolument tout dans une petite société tribale. Très bien. 3 ans après, passe un ethnologue qui dit « Ah oui, et qui questionne les gens sur le documentaire en question. Mais ça se passait dans des temps très anciens, d'avant la création. Donc c'est comme ça qu'il comprend que des événements majeurs sont immédiatement repoussés dans une sorte d'espace-temps qui n'a absolument rien de commun avec la pensée structurée occidentale. Pour vous donner un tout petit exemple.
Et vous avez des échanges avec Claude Lévi-Strauss lors de vos retours à Paris, systématiquement?
Ah bah oui.
Et il vous demande ce que vous avez pu voir sur place, aussi bien en Inde qu'au Sénégal.
Alors oui, je lui rapporte des choses. Je lui ai rapporté un bœuf en métal qui était d'un petit peuple tribal, comme on dit en Inde. On parlait beaucoup de la technique. Je ne lui parlais pas de l'Inde en général. Je lui expliquais surtout, si je lui racontais des trucs quand même. Il a dit des choses horribles sur l'islam. Il a écrit des choses horribles sur l'islam, Lévi-Strauss. Alors je lui racontais que dans le sanctuaire soufi de New Delhi, car il y a 40 sanctuaires soufis en Inde, il y en a un somptueux à New Delhi. Il est dans un bidonville. Très bien. Moi, j'y allais tous les vendredis pour écouter les chanteurs kawali. Vous avez sûrement entendu parler des chanteurs kawali qui sont très fameux, particulièrement à Paris, où ils viennent régulièrement. Il y en a en Inde, il y en a au Pakistan, il y en a au Bangladesh. Très bien. Ce sont les chanteurs soufis musulmans de l'Asie du Sud-Est. Très bien. J'y allais et j'écoutais les chanteurs. Et puis, je suis devenu très ami avec les gestionnaires du lieu. C'est un sanctuaire soufi. Il y a une petite mosquée, un grand tombeau, une consultation médicale, un petit cimetière, la consultation médicale chamanistique aussi, ça vaut le coup d'œil. Et c'est une école, et tout ça forme un ensemble. Cette cité-là était du XIIIe siècle. Elle s'appelle Nizamuddin. Elle est très connue, c'est à Delhi. C'est dans le vieux Delhi. Très bien. Et à ma stupeur totale, au bout de 6 mois, le patron du lieu, le propriétaire gestionnaire du lieu, qui est héréditaire, c'est une famille héréditaire depuis le XIIIe siècle, me demande de venir, si possible, avec le drapeau français, avec la voiture, avec le drapeau. Il dit, quand le drapeau français est là, les flics arrêtent de nous tirer dessus. Oui, je racontais des choses comme ça sur l'islam, pour qu'ils comprennent ce que c'était que l'islam. Parce que Lévi-Strauss et l'islam, il n'a absolument pas compris. Donc il écoutait quand même. Parce que l'Inde qu'il avait vue, je reviens là-dessus, était une Inde totalement fantasmée.
Pour revenir à François Mitterrand, François Mitterrand est venu en Inde.
À l'occasion de l'année de la France en Inde, c'était 89, c'était la célébration de la Révolution française. On avait fait ça dans toute l'Inde, la célébration. Et c'était assez formidable.
Ce qui est moins connu, c'est le passage de François Mitterrand à la Cité de la Joie.
Alors, pas à la Cité de la Joie, avec ses amis de la Cité de la Joie. François Mitterrand n'aurait pas pu entrer dans la Cité de la Joie. Nous avons essayé de le faire en voiture, avec le drapeau, d'entrer dans la Cité de la Joie. On a fait 10 cm. Tellement les ruelles sont étroites. Mais la voiture était quand même, avait pénétré 10 cm dans la Cité de la Joie. Et le drapeau flottait dans la Cité de la Joie. C'était ce que mon compagnon voulait à tout prix. Et après, on a passé des heures à être débordés d'affection. C'était merveilleux, c'était extraordinaire, la Cité de la Joie à ce moment-là.
Alors pourquoi François Mitterrand ?
Attendez-nous. À l'époque, il y avait l'électricité et l'eau. Ça avait bien changé quand même. François Mitterrand, dans la Cité de la Joie, quand c'était un bidonville misérable, avait passé avec le prêtre français, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, le prêtre français qui a passé sa vie dans le bidonville, il avait passé un temps assez long. Et il a souhaité réunir ses compagnons de bidonville. À l'époque, eux, c'était un bidonville qu'ils avaient. Ses compagnons de bidonville, il a souhaité les retrouver à Calcutta. C'était dans je ne sais plus quelle école ou bâtiment sans importance, dans une salle où même les témoins, il y avait 3 témoins, Jacques Attali, mon compagnon, qui s'appelait André Lévin et moi. Même nous, on s'est écartés parce que c'était un ensemble de gens en larmes.
Merci Catherine Clément. On se revoit demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Maïlys Besri avec Catherine Clément. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, prise de son Yves Lehors, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.